Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction. Cette semaine, Focus spécial Coupe du Monde. 5 épisodes, 5 matchs de légende des Bleus. Racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune, des moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi parfois, avec des anecdotes inédites, vous l'entendrez, sur les avant-matchs, les rencontres et les après-matchs. Aujourd'hui, 4e épisode, France-Italie, Berlin 2006, finale de la Coupe du Monde.
Pas ça, Zinedine. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme. Ouais.
Ira qui redonne à Petit. Petit qui va peut-être marquer. Petit, vite. Il donne à Petit.
Mbappé, la frappe de finale.
Quatrième épisode, France-Italie, les adieux de Zizou, cet épilogue si dramatique, des larmes partout en France devant les écrans géants pour nous raconter ce match si particulier. Un rédacteur en chef, s'il vous plaît, ici à RTL, qui a commenté ce Mondial 2006 en tribune. Bonjour Nicolas Faureau.
Bonjour.
Avec nous également la voix italienne du Conseil de l'Europe dans RTL Foot, Guillaume Maillard Pacini. Buongiorno Guillaume.
Buongiorno a tutti, ciao.
Avec nous aussi la Bible du Mondial, Xavier Barret, auteur entre autres du guide de la Coupe du Monde 2022 à se procurer très très vite maintenant aux éditions Solar. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Cette finale France-Italie, c'est l'aboutissement d'une montée en puissance. Espagne, Brésil, Portugal, la France vient de terrasser trois immenses nations du foot. Nicolas Faureau, dans Le Pays, j'ai retrouvé un sondage, 87% des habitants pensent qu'on va gagner. C'était dans l'équipe à l'époque, ça ne faisait presque aucun doute. Il se dégageait une telle confiance de cette équipe, vous qui les suiviez à l'époque. C'est incroyable ce qu'ils avaient réussi à donner comme élan au sein du pays.
Oui, d'autant que ça avait mal démarré. Hein. Le premier tour avait été extrêmement poussif. Nul contre les Suisses, nul contre les Coréens, victoire un peu laborieuse contre le Togo.
Le Togo. Ouais.
Et donc, les premiers doutes qui étaient apparus, et puis soudainement, c'est vrai, ce deuxième tour, ces belles affiches, et cette équipe de France qui se retrouve, et surtout, ces leaders qui se retrouvent également, et qui, là, tous ceux dont on attendait monts et merveilles, Zidane, Vieira, Makelele, dont on va parler, et qui prennent les choses en main, et c'est parti.
Des leaders, et notamment des revenants parmi ces leaders, Zizou, Thuram, Makelele, sortis quelques mois plus tôt de leur retraite. Zidane dit qu'il a entendu une voix dans la nuit. Il avait annoncé son retour 10 mois plus tôt. Tendez l'oreille, c'est une interview par téléphone à l'époque.
J'ai bien réfléchi, dans ma cage, j'ai bien réfléchi, et je me dis que je reprends l'équipe de France. Et je me dis que l'équipe de France m'a tellement donné que voilà, je reviens. Et j'ai envie d'aider l'équipe de France.
Il a bien réfléchi pendant ses vacances et il revient. Et c'est vrai que à la veille de ce France-Italie, Xavier Barret, on oubliait presque d'où on revenait. Parce que la France, un an avant, sans Zidane, sans Thuram, sans Makelele, elle était franchement à la peine.
Elle était à la peine dans la phase éliminatoire. Il faut rappeler qu'effectivement, ils avaient pris leur retraite internationale après l'Euro 2004, éliminé en quart de finale par la Grèce, au Portugal. Et puis, il y a eu cette première saison d'après Zidane, 2004-2005, avec des matchs nuls catastrophiques dans les éliminatoires sous la coupe de Raymond Domenech, qui essayait de reconstruire une équipe de France en raclant les fonds de tiroir, comme il l'avait dit lui-même. Et puis donc, du coup, il y a eu cette prise de conscience, il faut rappeler Zidane, pour qu'il redynamise cette équipe de France, et déjà qu'il la qualifie, parce qu'on n'était même pas sûr de se qualifier. Et dans la foulée, bien, il s'est révélé, effectivement, on avait des doutes sur sa personnalité, parce que la génération 98, c'était Deschamps et Blanc, les leaders, et lui, c'était c'était le leader technique, mais c'était pas le leader de vestiaire. Et là, il s'est affirmé comme un grand leader, un capitaine, c'est lui qui portait le brassard. Et pour emmener cette équipe, non seulement en phase finale, où on croyait pas forcément qu'elle pouvait faire quelque chose, mais ensuite au-delà, et c'est là où, effectivement, on a été tellement agréablement surpris par ce qu'il était capable de faire à la tête de cette équipe de France.
Est-ce que petit à petit, Xavier, ce groupe s'est auto-géré? C'est un peu la légende, on dit que Raymond Domenech était dépossédé en quelque sorte de son travail de guide et de sélectionneur. C'est vrai ou non?
Alors c'est ce qu'on a dit effectivement pour avoir beaucoup critiqué Raymond Domenech, après pour en avoir souvent parlé avec lui, des choses qu'il dira peut-être un jour, il avait quand même la main sur le groupe parce que il restait le sélectionneur, c'est lui qui avait pu choisir les joueurs, d'où parfois c'est effectivement ces choix de dernière minute un peu étonnants comme Chimbonda ou Govou, parce qu'il aimait bien effectivement, et même Ribéry, il aimait bien effectivement venir à injecter dans le groupe des éléments pour redynamiser l'esprit d'équipe et surtout pour éviter que ces joueurs s'installent dans un certain confort.
Alors, en face, avant cette finale, il y a donc l'Italie. Un but encaissé pendant tout le tournoi avant de jouer les Bleus, capable de gagner deux fois en prolongation. Tiens, écoutez Sidney Govou, l'ailier des Bleus, parler justement des Italiens quelques heures avant la finale sur RTL.
On a vu, c'est une équipe, depuis que j'ai vu depuis le début de cette compétition, défend très très bien, hein, un bloc assez bas et qui un peu aspire les équipes adverses, essaie de les fatiguer et après sur quelques contres, surtout dans les fins de match, arrive à faire la différence parce que justement physiquement je pense qu'ils sont au-dessus du lot.
Bref, c'est un peu le stéréotype du foot italien. Vous, la voix italienne du football sur RTL, Guillaume Maillard, Pacini, Cannavaro, Gattuso, Materazzi, ça respirait les tacles rugueux et la défense solide, ça.
Évidemment, à l'époque on avait une défense très solide. D'ailleurs, Cannavaro sera ballon d'or quelques mois plus tard après cette victoire en finale. Mais c'est évident qu'à l'époque, il faut rappeler que l'Italie aussi arrivait de Calciopoli, le scandale des paris truqués. Donc on était quand même dans une situation assez particulière, paradoxale. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde pour tout le pays a été une bouffée d'oxygène. Et ce parcours de la nationale, notamment, voilà, ça a fait du bien à tout le pays. Mais voilà, arriver à cette échéance de la finale face à la France, un pays rival quand même, messieurs, parce que voilà, cette rivalité existe depuis des décennies. On avait toujours quand même en mémoire l'élimination de 98 qui brûlait encore un peu les Italiens. Il y a eu 2000 évidemment, la finale de l'Euro, et c'est vrai qu'on arrivait à cette finale, voilà, pas confiant, mais on arrivait avec quand même de la crainte parce qu'on voyait en face quand même la France portée par un Zinedine Zidane qui était dans une forme exceptionnelle à l'époque.
Et ce qui est fou, mais Guillaume, vous allez nous le confirmer, c'est que les joueurs des deux équipes se connaissent. 19 joueurs ou ex-joueurs de la Juve dans les groupes, dont 6 Français. C'est assez particulier quand même.
Bien sûr. Les joueurs se connaissaient par cœur. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, la Panenka de Zidane, justement, voilà, il a dit qu'il avait fait ce geste-là parce que Buffon le connaissait par cœur. Donc, à l'époque, il y avait une grande communauté française de joueurs en Serie A qui était passé ou qui était toujours, et c'est vrai que voilà, c'était un match, évidemment une finale du mondial, mais une finale même en tant qu'amis, parce que vraiment les joueurs s'appréciaient, ils avaient beaucoup de respect les uns pour les autres, parce qu'on parle de joueurs. Et aujourd'hui, avec le recul, on le voit, c'était des champions.
Alors parlons de ce match, du début de match, fidèle à ce qu'on attendait d'ailleurs des Italiens, rugueux, Cannavaro qui met à terre très vite Thierry Henry, puis ensuite la rencontre qui bascule, hein, à la 7e minute, Materazzi accroche Florent Malouda dans la surface, pénalty.
C'est Materazzi qui fait obstruction sur lui, Malouda s'écroule bien évidemment, et c'est un pénalty pour l'équipe de France. Attention, le face-à-face, Zidane, Buffon.
Oui, Zidane face à Buffon, effectivement, pour un nouveau pénalty pour Thierry Henry. On se souvient du pénalty qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier en finale aux dépens du Portugal. Zidane qui va prendre 3 pas d'élan, 4 pas d'élan
même
face
pas,
à Buffon.
Même pas, très peu d'élan, Zidane. Il va tirer fort, je crois, avec la rage. Et il marque le but.
Non.
Si,
non.
Si, il y est. Regardez l'arbitre de touche.
Il est validé.
Il est parfaitement validé. Il a fait une panenka. C'est donc l'équipe de France qui mène 1-0 ici grâce à ce pénalty.
Quel risque, quel risque pris par Zizou quand même. Hein.
Geste, c'est vrai, totalement inattendu. Et on entend Christian Olivier et Eugène Saccomano qui commentent le match pour RTL. L'un pense que la balle n'est pas rentrée parce que ça tape la barre et ça retombe vraiment juste derrière la ligne de but. Nicolas, vous étiez au stade, vous voyez, vous, tout de suite, que la balle est rentrée
non, du tout ? Non, il faut le ralenti. Je pense que pour tout le monde, on a heureusement un ralenti assez rapide, mais il y a un léger doute. Hein.
Ouais.
Il y a un léger doute. Dans mon esprit, même l'arbitre n'est pas forcément... Bon, il n'y avait pas encore ces fameuses montres qui bipent comme aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression que même l'arbitre a un temps d'hésitation. Zidane, lui, non, en revanche. Zidane, il sait qu'il a marqué. Donc, il y a une seconde et demie suspendue avant la confirmation. Et c'est vrai, je trouve que 16 ans après, hein, ça fait 16 ans après, on se dit ce geste est génial.
Ouais.
À l'époque, on se dit ce geste est fou. Il y a une évolution. Mais c'est vrai que compte tenu de ce qui se passera ensuite, rétrospectivement, dans cette soirée-là, on se dit déjà Zizou, il n'était pas dans un état normal quand il marque cette panenka. En tout cas,
c'est bluffant de décontraction dans le geste. Mais ce qui est aussi marquant, c'est la célébration parce qu'il a la mâchoire qui reste vraiment très fermé à ce moment-là, Zizou.
Il était extrêmement concentré. Moi, j'étais pas à Berlin, mais j'ai des amis qui étaient là dans les coulisses du stade et qui l'ont vu s'échauffer avant le match. Il est arrivé avec une capuche. De la musique, et il était dans un des sous-sols du stade et il tapait comme un sourd dans le ballon contre le mur. personne pouvait le déconcentrer, s'approcher de lui. Mmh. Il était déjà dans son match.
Le dernier.
Pour lui, c'était le dernier match de sa carrière. Mmh. C'était la sortie absolument idéale pour un grand champion. Une finale de Coupe du Monde avec la possibilité de la gagner et comme en tant que capitaine, de la brandir. Mmh. Et là, il fait une Panenka. Et comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure, il avait joué avec Buffon, donc il se connaissait parfaitement. Et en général, Zidane ne se posait pas de questions sur les pénaltys. Il tirait très fort à droite, de façon à ce que le gardien adverse puisse pas l'attraper. Donc, il faisait pas vraiment de feinte. Mmh. Il mettait le paquet, il le plaçait juste au ras du poteau, et c'était inaccessible. Et là, il tente la Panenka, et ça passe. Donc, un geste de génie pour un dernier rendez-vous historique.
Il se réinvente, Guillaume Maier-Pacini, parce qu'aussi c'est Buffon en face, que comme le disait Xavier, ils se connaissent parfaitement, que c'est un immense gardien, donc il faut tenter quelque chose pour le surprendre.
Les deux étaient à leur apogée, d'ailleurs dans la prolongation, Buffon sortira une tête assez dingue de Zidane, mais comme les deux, vous l'avez justement dit, se connaissaient par cœur, il fallait... pour Zidane a moyen de le surprendre. Et quoi de mieux qu'une Panenka pour le faire. Nous, en Italie, à l'époque, moi, j'étais en Italie, je me souviens très bien la réaction de mes collègues italiens qui étaient persuadés, parce qu'il faut le rappeler, il n'y avait pas la goal line à l'époque. Nous, on était persuadés que le ballon n'était pas rentré. On a eu l'espoir, probablement en Italie, que le ballon ne soit pas rentré. Et en fait, on a vu Zidane courir de manière tellement convaincue en levant le doigt, en disant non, elle est rentrée. Et après, tout de suite, on a vu l'arbitre se diriger vers le rond central, donc on a compris. Mais c'est vrai que cette seconde hésitation pour les Italiens, c'était une seconde d'espoir.
Bon, l'espoir, il revient vite parce que l'avantage français est de très courte durée. 19e minute, Marco Materazzi, déjà lui, égalise.
Et c'est Pirlo qui est descendu tirer ce corner côté droit en regardant Fabien Barthez. Attention, il ne sort pas et but. Égalisation italienne de
Materazzi.
Materazzi qui marque.
C'est l'enfant terrible du foot italien, Materazzi. Alors, c'est pas un chic type, mais c'est quand même un sacré joueur qui d'ailleurs monte extrêmement haut sur ce corner. La détente est incroyable. Guillaume, il était aimé, il était incontournable chez vous, Materazzi, avant la Coupe du Monde, ou même chez vous, il faisait parfois débat.
Il faisait plus que débat. Plus que débat, il faut rappeler qu'il jouait à l'Inter Milan. Et moi, j'ai des souvenirs de derby avec l'AC Milan où Marco Materazzi était très virulent. Beaucoup de fautes, des fautes violentes. Donc, c'était un joueur qui était assez clivant, adoré par les supporters de l'Inter, parce qu'il vraiment incarnait l'esprit, et l'amour qu'il avait pour ses couleurs bleues et noires de l'Inter. Mais dans le football italien en général, autant vous dire que les autres tifosi n'avaient pas un énorme respect pour Materazzi. Et Materazzi ne démarre pas cette Coupe du Monde titulaire. Il le devient parce que Nesta se blesse. Il marque contre la République tchèque et donc contre la France. Mais en tout cas, en Italie, ce qu'il s'est passé plus tard, justement, cela ne nous a pas surpris parce que Materazzi n'était pas un chic type, vous l'avez dit, c'était vraiment un joueur très clivant et très, on peut même dire, détesté par les du Milan et de beaucoup d'autres.
Alors, quelques minutes plus tard, 36e, corner similaire pour les Italiens. Cette fois, c'est Luca Toni qui s'élève et qui touche la barre. C'est encore Andrea Pirlo, le génial milieu de terrain italien qui le tire. Quand on regarde ce match, Nicolas Forou, rétrospectivement, c'était un peu lui l'arme fatale à Pirlo, qui d'ailleurs plus tard marquera son tir au but. Joueur d'exception à son apogée, là aussi.
Ah oui, vous avez dit tout à l'heure que c'était une équipe de guerriers, mais
il y a l'artiste
maestro qui était là, Pirlo, c'est-à-dire cette capacité à bonifier chaque ballon, cette capacité à poser le jeu et à mettre le pied sur le ballon, et une élégance naturelle qui était vraiment impressionnante. Donc c'est vrai qu'il y avait 10 guerriers et il y avait Pirlo à part, et qui est très certainement celui qui allait...
Hein, Totti aussi,
oui,
comme
Totti,
bon joueur.
Oui, c'est vrai. C'était Totti. Un bon joueur aussi.
Alors, bon joueur. Il y avait quelques bons joueurs quand même dans cette équipe italienne, mais c'est vrai que Pirlo, c'était effectivement le véritable meneur de jeu, l'architecte, le génie. Et le génie de ses entraîneurs, c'était qu'au départ, c'était un numéro 10, et il l'avait fait reculer comme meneur arrière, en fait. Ce qui permettait aux Italiens d'avoir ce jeu long et très gênant pour la défense française, parce qu'effectivement, il avait un coup d'œil et une patte extraordinaire. Il pouvait très vite lancer Toni et Totti, d'ailleurs, qui sur des ballons de contre étaient redoutables.
Alors, un partout à la mi-temps, c'est toujours difficile de savoir ce qui se dit dans l'intimité d'un vestiaire, mais dans ce groupe, qui prenait la parole? C'est Domenech, on en parlait un petit peu plus tôt, qui guidait ces joueurs, ou est-ce que les patrons, quelque part, s'exprimaient dans le vestiaire, Xavier?
Zidane et Vieira, c'est là où Zidane, effectivement, a fait cette métamorphose, le timide génie du ballon qu'il était dans les années 90, notamment la Coupe du Monde 98, est devenu ensuite un véritable meneur d'hommes. Et c'est lui qui a eu effectivement cette présence de pouvoir mobiliser tout le monde autour de lui lorsqu'il est revenu. Alors, il y avait Vieira, hein. Vieira aussi avait un rôle très important, mais Zidane, c'était vraiment lui qui était le pivot de cette formation, avec aussi une forme de concurrence larvée avec Thierry Henry. Il faut pas oublier qu'il y avait d'un côté j'allais dire le clan Zidane, mais qui était devenu un peu tout seul, et puis de l'autre les joueurs d'Arsenal qui avaient l'habitude de jouer ensemble et qui se connaissaient parfaitement et qui avaient su créer aussi des automatismes sans Zidane, d'où le fait que dans cette équipe de France, il n'y a jamais eu qu'une seule passe décisive de Zidane pour Thierry Henry, c'était lors du quart de finale contre le Brésil, avec ce but effectivement magique, mais ça a été la seule fois où Zidane a adressé une passe décisive à Henry. Donc c'était des très grands joueurs qui s'étaient retrouvés derrière un autre objectif commun, mener cette équipe de France à nouveau à la victoire, et pour ça ils avaient su trouver les mots justes et surtout les bons comportements.
Alors ce France-Italie ensuite, c'est un match très très fermé, les occasions sont vraiment rares en seconde période, on sent que les Bleus dominent mais sans vraiment réussir à concrétiser cette domination. Vieira sort sur blessure, Zizou se fait remettre l'épaule, c'est rugueux, domination assez vaine, prolongation qui va donc laisser place à la dramaturgie. On retient le coup de boule de Zidane aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi cet autre coup de boule, on l'évoquait un peu plus tôt, de Zizou à la 104e minute, centre de Sagnol, tête de Zizou, et Buffon va la sortir, mais alors vraiment sous la barre, Guillaume Maillard-Pacini. À ce moment-là, est-ce que vous, les Italiens, vous vous dites on va perdre, comme en 2000 en prolongation?
Alors l'anecdote que moi j'ai avec des amis, c'est que au moment où Buffon arrête ce coup de tête qui est incroyable, Zidane qui est quasiment parfait, et Buffon va la chercher, et cet ami me dit, elle est pour nous. Et c'est vrai que là, en Italie, on a quand même compris que, on sentait quand même que la finale basculait de notre côté, parce que c'est vrai que c'était pas une très grande finale de la part de la nationale et sur la globalité du match. Mais à ce moment-là, quand même, on sent que la finale bascule peut-être de notre côté, parce que sortir un arrêt comme ça en prolongation face à Zidane, on a peut-être compris que c'était peut-être aujourd'hui notre jour après les désillusions de 98 et 2000. Donc c'est vrai que ce moment-là était charnière pour la sélection et même pour le pays, où on a senti que quelque chose se passait.
6 minutes plus tard, Zinedine Zidane craque, on y vient, il décroche ce coup de tête dans la poitrine de Materazzi en mandovision.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Oh non, Zinedine.
Oui, ils essaient de faire intervenir le quatrième arbitre sur la télé.
Carton Zidane. Non. C'est carton rouge, oh non.
Les mots devenus mythiques de Thierry Gelardi sur TF1 ce soir-là. En tribune à ce moment-là, Nicolas, racontez-nous. Vous voyez ce qui s'est passé tout de suite?
Pas du tout. Pas du tout. Je pense que, grosso modo, personne ne voit, puisque le ballon à ce moment-là file vers le but des Français, revient dans le rond central, et c'est à ce moment-là que l'arbitre espagnol, Monsieur Elizondo, arrête le match, et que les caméras se tournent vers la surface de réparation italienne, où Materazzi est à terre. Et très vite, gros plan sur Zinedine Zidane, qui lui semble, imperturbable. Il est arrêté. Il regarde un peu dans le vide. Ouais. Il attend. Mais non, personne ne le voit. Et il s'écoule quelques secondes. Le temps va être vraiment suspendu pendant deux bonnes minutes avant la décision finale de l'arbitre. Mais on sait, au bout d'une vingtaine de secondes, avec les ralentis de la télévision, la scène, tout d'un coup, tout le monde la voit. Moi, je ne sais toujours pas très bien ce qui s'est passé au niveau des arbitres.
Moi, on le sait maintenant, en fait. C'est parce que l'arbitre, donc c'était un Argentin, en fait. Monsieur Elizondo ne voit pas l'action en direct, vous l'avez très bien dit, Nicolas. Tiens,
Xavier, écoutez ce que dit Thierry Henry à la fin du match, et ensuite, vous allez nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de l'arbitre. Parce que l'attaquant des Bleus, il revient sur ce carton rouge, sur la décision de l'arbitre. Écoutez, c'était au micro RTL après la rencontre.
J'ai pas vu ce qui s'est passé, parce que quand je venais juste de sortir, je commençais à prendre place sur le banc et j'ai entendu les gens crier. Donc je me suis tourné et j'ai vu par terre. Et j'ai vu l'arbitre du sort demander à l'arbitre de touche, il avait vu quelque chose et les deux se sont dit non.
Bon, Thierry Henry, dans Envoi clair, il suggère qu'on a eu la première utilisation de la vidéo dans l'histoire du foot. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était effectivement un quatrième arbitre espagnol, Monsieur Medina Cantalejo, qui a averti l'arbitre de centre, l'Argentin Horacio Elizondo, en lui disant attention, il s'est passé quelque chose, et parce qu'ils ont un moniteur de contrôle au niveau du quatrième arbitre.
Ouais.
Et donc il avait pu voir cette action
au bord du terrain.
Et donc voilà, au bord du terrain. Et donc c'est comme ça qu'il a alerté Horacio Elizondo. Du
coup, on rappelle au plus jeune que la vidéo n'existe pas à l'époque.
En direct, pendant le match, non, ce n'est pas utilisé. Et on a même eu, lors de la Coupe du Monde 2010, quelques années plus tard, une décision inverse d'un arbitre italien, alors que la vidéo montrait qu'il y avait une position de hors-jeu. Il a quand même validé le but pour ne pas justement l'utiliser. Suite à ce qui se passe à Berlin, lors de cette finale en 2006. Parce qu'on utilise la vidéo pour une décision qui est juste sur le fond, mais sur la forme, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. L'arbitre ne voit pas l'action, ses juges de ligne non plus, et c'est en fait le quatrième officiel, donc qui était un Espagnol, qui avertit l'arbitre de centre de cette faute de Zidane, ce qui lui vaut ce carton rouge.
C'est le 12e carton rouge en carrière de Zizou. Ce n'est pas une première, hein, Zizou qui perd ses nerfs, malheureusement. Tiens, écoutez ce qu'il disait justement de son impulsivité 2 ans avant le Mondial 2006, lors d'un entretien RTL.
Des gestes que je ne dois pas faire, ça c'est sûr. Des choses qui doivent pas m'arriver. Ça arrive, en fait, il n'y a pas d'explication en même temps. C'est un réflexe, un mauvais réflexe. Et ça fait partie aussi de ma personnalité. Parce que je ne peux pas, en fait, le faire, ça dans la vie de tous les jours, je ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas méchant, je ne suis pas quelqu'un qui... Donc je peux pas, ça ne peut pas m'arriver trop. Et sur le terrain, peut-être avec le stress, le machin, le truc de... Hein, peut-être. Mais il n'y a pas de solution.
Nicolas Forou, il n'a jamais réussi à le gommer, ce côté impulsif, Zizou. Ça faisait partie de lui aussi.
Ça faisait complètement partie de lui, de sa part de mystère. Il a dit quelques années plus tard, j'ai réagi au mauvais moment, au mauvais endroit, mais c'est moi. Et oui, il aurait dû se contrôler, évidemment. En plus, tout ça semble tellement anodin. Enfin, quand j'ai revu les images avant qu'on se voie, je veux dire, l'accrochage avec Materazzi est d'une banalité affligeante. Physiquement, il se touche un tout petit peu, etc. Il y a sans doute ces fameux échanges « Je te donnerai mon maillot à la fin du match », Materazzi qui dit « Je préférerais ta sœur ». C'est exactement ce qui s'est dit, semble-t-il. Mais bon, voilà, il n'aurait jamais dû, mais c'est en même temps Zizou, et on ne le changera pas, et cette légende-là sera toujours la sienne.
Zizou qui, d'ailleurs, a fini par s'expliquer très 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 tard, en confirmant un peu les dires de Materazzi, en disant « Bah oui, ma sœur était aux côtés de ma maman, qui était très fatiguée, en mauvaise santé à ce moment-là, et j'ai craqué ». Mais il y a toujours une part de doute et de légende, et c'est assez obscur ce qui s'est dit à ce moment-là.
C'est pas exactement la phrase qui s'est dite, et c'est celle-là qui a fait basculer Zidane, en fait. C'est cette provocation. Mais il faut savoir que les Italiens, eux, préparent toujours ce genre de grand rendez-vous dans le plus grand détail. Ils savent tout ce qui se passe, notamment dans la vie privée des joueurs. Ils le disent à certains joueurs en disant, dis donc, machin, il est en train de divorcer, machin, il a sa femme qui est partie, machin, n'hésite pas à le provoquer. C'est dans la culture des matchs en Italie. Et donc Zidane, il le savait ça pourtant, mais il a été victime de ces mots de Materazzi, parce que dans la préparation, c'est quelque chose qui est intégré chez les joueurs italiens, on sait ce qu'on va dire pour les provoquer. Donc, malheureusement, et c'est le grand regret de sa vie, et Zidane l'a dit, et s'en est d'ailleurs excusé vis-à-vis du grand public quelques jours après, mais dans le vestiaire, après la finale, il a dit à ses coéquipiers, attendez, venez tous, que je m'excuse. Il s'est excusé tout de suite auprès de ses coéquipiers de leur avoir fait perdre cette finale, parce qu'effectivement, elle bascule là-dessus. Et il y a effectivement cette nature qui est la sienne profonde. Il ne faut pas oublier d'où il vient des quartiers nord de Marseille. Sa place sur le terrain, elle se gagnait avec son talent balle au pied, mais aussi avec les coups de coude de temps en temps. Et il a fallu jouer effectivement de tous ses atouts pour pouvoir s'imposer. Donc il a cette capacité de révolte, cette rage en lui. Il arrive à la discipliner le plus souvent possible, mais pas toujours. On se souvient, nous, moi j'étais à France Football à l'époque, en 2000, il perd le Ballon d'Or alors qu'il a gagné l'Euro avec l'équipe de France. Il joue à la Juventus. Un soir de Ligue des Champions, il joue contre Hambourg. Il est victime d'un tacle d'un joueur de Hambourg. Il lui donne un coup de boule en se relevant. Il est expulsé. Il perd le Ballon d'Or. On est en pleine période du vote sur cette action-là.
Guillaume Maier-Pacini, vous, la voix italienne du foot sur RTL, c'était prémédité de la part de Materazzi? C'était calculé?
Prémédité, non. Après, voilà, les phrases autour de la sœur de Zidane sont véridiques, parce que Zidane l'a confirmé, Materazzi aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est certain qu'en Italie, voilà, c'est vrai qu'on a ce sens du détail. Après, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait que Materazzi quasiment pour le dire ce soir-là, à ce moment-là. Parce que Materazzi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était quelqu'un de très virulent et qui n'avait pas peur de dire les choses et de provoquer ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a fait craquer Zidane probablement au pire moment pour les Français. Et c'est vrai qu'en Italie quand même, alors à l'instant où on voit Zidane se faire expulser, on est forcément heureux parce qu'on, voilà, on sait que la finale probablement bascule, mais on est aussi déçus parce que vous savez, en Italie, Zidane est très respecté, ouais, très aimé. Il a été longtemps à la Juve et c'était quand même un champion incroyable. Son match face au Brésil, moi je me rappelle de la Repubblica qui est le journal le plus vendu en Italie, disait le dieu du foot a fait tomber les dieux du foot. Et en fait, voilà, ça vous donne un peu le sentiment de respect et d'amour qu'on a toujours pour Zidane, mais c'est vrai que cette expulsion-là quand même, et d'ailleurs Fabio Caressa, le commentateur à l'époque de Sky Italia, avec Beppe Bergomi, qui est un ancien grand défenseur d'Italie, dit cette phrase au moment où Zidane se fait expulser, mais pourquoi tu as fait ça? C'est indécent, tu as gâché ta carrière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on pense tous en Italie.
Zidane quitte donc la pelouse de Berlin, c'était son tout dernier match. Les Italiens ne vont pas parvenir à en profiter avant la fin de la prolongation, et via donc cette séance de tirs au but, Viltor, Trezeguet, Abidal, Sagnol qui vont tirer. C'est une liste logique, Nicolas Faureau, compte tenu du fait que le tireur de pénalty, Zizou, n'est plus là.
Spontanément, oui. Enfin, il n'y avait pas de... Là franchement, il n'y a rien à dire sur le choix qui a dû être celui de Renzo Domenech, qui a dû, sur ce coup-là, être vraiment décideur. Mais oui, alors après, Trezeguet, ça se joue à quoi?
À pas grand-chose. C'est le seul, effectivement, hein, joueur à rater son tir au but, David Trezeguet, dont la frappe fracasse la barre. Et à ce moment-là, l'Italie peut se préparer à exulter.
Si Fabio Grosso marque, l'Italie gagne la Coupe du Monde. Grosso, il marque et les Italiens sont champions du monde.
Oh là là, qu'est-ce que c'est cruel pour l'équipe de France qui a dominé depuis la mi-temps de ce match France-Italie et qui s'incline au tir au but.
Cruel, disait Eugène Saccomanno, c'était vraiment le terme. Et puis c'est aussi la fin d'une génération. On a l'impression que la France va mettre des années à s'en remettre, à trouver une relève, au moins 8 ans jusqu'à 2014 et une Coupe du Monde qu'on pourra considérer comme réussie. Pourquoi c'est si difficile de remplacer une telle génération ensuite, Xavier Barret?
Alors c'est vrai que là il y avait eu on avait amorcé avec les différents sélectionneurs un renouvellement, mais en fait de l'équipe de France, mais les cadres étaient restés les mêmes. Et c'était eux qui continuaient à effectivement, j'allais dire, faire l'équipe, en tout cas à être l'ossature, à être l'épine dorsale de cette équipe. Et d'ailleurs Raymond Domenech emmènera même Vieira blessé à l'Euro 2008 et Thuram en fin de cycle. Donc il y avait ce problème de renouvellement, de retrouver des cadres. Et d'ailleurs d'où le rappel à Zidane pour cette campagne 2005-2006, alors qu'il avait pris sa retraite internationale. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve avec, vous l'avez dit, cette séance de tir au but cruelle, qui est un peu une revanche pour les Italiens, parce que Trezeguet, il fait partie
c'était
de ceux qui...
C'était le bourreau
qui,
de l'Euro 2000.
Oui, et le bourreau de l'Euro 2000, et en 98, il était tout jeune, il marque son tir au but, comme Thierry Henry d'ailleurs, qui lui est sorti en revanche lors de cette finale avant la fin. Donc, il marque contre l'Italie lors de ce fameux quart de finale qui se joue au tir au but au Stade de France. Donc, c'est un peu une revanche malheureuse pour les Bleus, de la part des Azzurri, des Italiens, qui ont quand même dominé cette finale. Ils ont eu 55% de possession et ils ont eu surtout un Buffon extraordinaire qui réalise 4 arrêts, alors que c'est vrai que de son côté, Fabien Barthez a été relativement tranquille.
Oui.
J'ai une petite anecdote sur cette finale que je suivais depuis Paris à la rédaction de France Football. Et donc, on avait préparé la une, on attendait Zidane brandissant la coupe. Et donc, quand Zidane se fait exclure, là, panique dans la rédaction, parce qu'on se dit, mince, qui est-ce qu'on va mettre à la une? On ne sait pas encore qui va gagner. Parce qu'il y a encore 10 minutes de prolongation et il y aura la séance de tir au but.
Et alors c'était quoi la une?
Qu'est-ce qu'on va mettre à la une? Qui a le brassard? C'est Barthez. Et tout de suite pour nous, Barthez, un gardien, c'est moins vendeur, on sait, en une d'un journal de foot qu'un joueur, surtout un joueur comme Zidane. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on met l'équipe de France? On va mettre une joie? Parce que normalement, le soir d'une finale de Coupe du Monde, vous mettez ceux qui brandissent la coupe.
Bien sûr.
Voilà. Mais à partir du moment où, bien, c'est plus le joueur que vous attendiez, et ben on se retrouve coincé. On se retrouve coincé, donc on est même plus, on suit le match d'un œil, mais en fait on est en train de se dire qu'est-ce qu'on va mettre à la une, comment on va faire la une. Donc vous voyez, il y a des implications parfois au niveau de la fabrication d'un journal qui nous décroche presque de l'intensité du match.
Il faudra attendre 2018 pour retrouver les cimes d'une Coupe du Monde et des Français qui soulèvent en une des journaux le trophée. On en discutera demain. On se retrouvera pour un nouvel épisode de Focus, le cinquième et dernier de cette série sur les matchs de légende. légende des Bleus, le France-Croatie-Moscou 2018. C'est pour demain. En attendant, merci à tous les trois, Xavier Barret, Guillaume Maillard-Pacini et Nicolas Forou. Merci.